Mes chers amis, aujourd'hui nous allons retourner à Gethsémani contempler Jésus. Peu de jours avant sa mort, Jésus avait dit à ses apôtres « Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». Rien n'est plus vrai, et l'on est bien obligé de constater au moins deux choses. La première, c'est que toutes les œuvres charitables en France, hôpitaux, dispensaires, écoles, etc., ont été réalisées par l'Église, via ses religieux ou ses fidèles. La deuxième, c'est que toutes les grandes œuvres de l'Église, en fait l'œuvre du corps du Christ, se sont construites malgré les persécutions quasiment inévitables, incompréhension, rivalité, calomnie, etc. Tous les fondateurs se sont heurtés aux critiques, à la méfiance, à des résistances plus ou moins voilées, aux mensonges, aux jalousies et à tant d'autres persécutions. Ils étaient devenus l'image de ce que Jésus avait vécu tout au long de sa vie publique. Et de nos jours, les persécutions contre les chrétiens et leurs œuvres continuent. Jésus dérangeait. Il faisait trop de miracles. Tout le monde allait vers lui. Il fallait l'arrêter, car ce qu'il prêchait était inadmissible pour les riches et ceux qui avaient le pouvoir. Selon Jésus, il faudrait même aimer ses ennemis. Non, vraiment, il fallait l'empêcher de continuer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Comment changer le cœur des hommes endurcis, blessés par Satan? Car le véritable ennemi de Jésus, c'est lui, Satan. Et la lutte de Jésus contre les forces mauvaises se renouvela tous les jours. Et cette lutte se poursuivit à toutes les époques et continue d'une manière encore plus féroce de nos jours. Alors Jésus pleure toujours via ses saints et ceux qui veulent le suivre. Jésus pleure toujours dans ses tabernacles délaissés, là où son cœur eucharistique est réellement présent. Jésus pleure dans nos tabernacles devenus Gethsémani. Continuons notre méditation. Jésus vient de rentrer à Jérusalem. La foule des rameaux se pressait autour de lui, malgré les menaces proférées par le Sanhédrin. Bientôt ce fut la résurrection de Lazare et tant de guérisons. Pourtant, Jésus savait qu'on cherchait à l'arrêter. Mais c'était l'heure, son heure, l'heure du grand passage. La Pâque juive devait devenir la Pâque chrétienne. Poursuivons. Jésus est au Cénacle avec ses apôtres. Il est en action de grâce, car la volonté du Père, donc la sienne au sein de la Trinité, va bientôt se réaliser. Jésus est en action de grâce, en Eucharistie. Par un geste suprême de don total de l'amour de son cœur de Dieu Fils uni au Père dans l'amour trinitaire, il offre sa vie humaine dans l'Eucharistie. Ainsi, il pourra rester toujours au milieu des hommes qui ont tellement besoin de sa présence. Maintenant, il peut aller vers sa croix, mais en passant par Gethsémani. Vraiment, qu'est-ce que l'homme pour être l'objet d'un tel amour? Jésus va vers Gethsémani. Il sait que ses apôtres n'ont pas compris grand-chose à ses derniers enseignements. Il sait que Judas est en train de le trahir. Il sait que Pierre va bientôt le renier et que des pauvres à qui il a fait tant de bien vont, eux aussi, se joindre à la foule de ses persécuteurs. Jésus pleure dans son cœur car il a pitié de tous ces pauvres qui agiront sans savoir ce qu'ils font. Jésus pleure dans son cœur, mais il continue son chemin vers Gethsémani, car il sait aussi qu'après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint les aura rejoints, ses disciples n'auront plus peur, car leur intelligence sera enfin ouverte au mystère de Dieu. Le cœur de Jésus s'apaise et son pas se fait plus ferme. Quand le petit groupe des apôtres est arrivé à Gethsémani, Jésus insiste pour que les 12 veillent et prient, car leur chair est faible et leur présomption grande. Bientôt, ils vont presque tous se sauver et ils le laisseront seul. D'ailleurs, c'était écrit, il n'aura pas de consolateur. À Gethsémani, quelques heures avant son chemin de croix, Jésus est seul, mais pas complètement. Satan, qui avait été obligé de le quitter après les tentations au désert, Satan, que Jésus avait constamment chassé au cours de sa vie publique, Satan va se venger. Satan est là, près de Jésus, qui prie et qui pleure sur ses enfants bien-aimés. Satan est là qui, pendant 1 ou 2 heures, va faire défiler devant Jésus les scènes horribles et les blasphèmes de tous les siècles jusqu'à la fin du monde. « Jésus, est-ce vraiment la peine de poursuivre ton sacrifice ? Tu vois bien que les hommes ne veulent pas comprendre. D'ailleurs, j'agis pour qu'ils ne comprennent pas. Et les hommes m'écoutent, moi, tandis que toi, ils te délaisseront, tous. Il faut dire que je leur accorde tous les plaisirs qu'ils aiment et tout l'argent auquel ils aspirent. Toi, tu ne parles que des béatitudes de pauvreté, de douceur, de pureté, de miséricorde et d'autres qui ne les intéressent pas. Tu as encore le temps, va-t'en, pars d'ici. Tu vois bien que le Père aussi t'abandonne. Et ta mère, tu l'abandonnes ? Pauvre maman, que va-t-elle devenir ? Allons, vite, pars, tu le peux, tu le dois. Laisse tes pauvres amis qui ne sont des amis que lorsque tout va bien pour eux. C'est que je connais bien le cœur de l'homme, moi. Alors pars vite d'ici, sinon demain tu vas être crucifié. Regarde tous les supplices que tu devras subir, et personne n'aura pitié de toi. Vite, vite, pars, tu as encore le temps. » Et Satan déploie complaisamment devant les yeux de Jésus les scènes horribles de son chemin de croix et de sa crucifixion. Jésus frémit et soupire. Jésus sue le sang. Jésus crie « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Mais je sais que je dois le boire, ce calice, car c'est ta volonté, c'est la volonté de la Sainte Trinité dont je suis. Père, pitié !» Un grand silence répond à l'appel de Jésus. Puis soudain, une lumière. C'est l'ange du Seigneur qui apporte, lui aussi, une coupe, mais une coupe d'espérance et de vérité. Et Jésus voit défiler devant lui les foules immenses des âmes qu'il est en train de sauver, de racheter en ce moment et durant tous les siècles. Jésus voit les foules qui s'approchent de son Eucharistie, toutes les âmes qui viennent l'adorer devant ses tabernacles. Jésus voit aussi ses armées de saints qui s'emploient à soigner les malades, à aider les pauvres, à enseigner tous ceux qui cherchent la vérité. Et Jésus voit aussi tous les martyrs qui ont préféré la mort plutôt que de le trahir. Jésus voit aussi sa résurrection qui aura lieu dans 3 jours. Dans 3 jours ? Jésus tressaille. Merci, Père. La sueur de sang a disparu. Les larmes de Jésus sont devenues des larmes de paix, de bonheur. Il peut rencontrer Judas qui s'approche. Il peut aller affronter sa passion et sa mort, car dans 3 jours, il ressuscitera. Il est déjà vainqueur de Satan et du mal. Les hommes sont sauvés, joie sans pareil. Le cœur de Jésus, qui a été broyé par une douleur inhumaine causée par l'amour, le cœur de Jésus se tourne vers le Père et vers les hommes de tous les temps. C'est vrai, Jésus sera la nourriture de tous ceux qui ont faim et soif de Dieu. Voici que les hommes ont retrouvé le bonheur, leur véritable vocation, la vocation du bonheur destinée à tous les hommes qui librement l'acceptent. Jésus se lève et réveille ses apôtres. Il sourit. Ses pauvres apôtres ont du mal à s'éveiller et Jésus les regarde avec un amour qui le transfigure. Jésus n'est qu'amour, amour vivant, amour divin qui se donne. Du cœur de louange de Jésus s'écoulent des flots d'amour qui inondent le monde. Jésus, lumineux, rayonne de bonheur. Il avance, suivi de ses amis. Ils sont sur le point de quitter Gethsémani. Mais voici Judas. Chers amis, regardons notre monde d'aujourd'hui, celui que Satan est toujours en train de construire. Peut-être que, plus que les hommes des siècles précédents, les hommes d'aujourd'hui font pleurer Jésus et sont la cause de sa sueur de sang. Mais nous, auditeurs chrétiens de Radio Silence, nous étions certainement dans l'armée des saints qui, présents dans la coupe apportée par l'ange à Gethsémani, consolèrent Jésus et le fortifièrent. Mes amis, pensons souvent à cette réalité, le salut de tous les hommes obtenu par le sacrifice de Jésus. Certes, c'est un mystère, mais le mystère de l'amour. Et au fond, la foi vécue, est-ce vraiment pour nous un sacrifice ? N'est-ce pas plutôt le vrai bonheur ?